Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle consacrée à la psychologie avec Anne-Catherine Sabas. Bonsoir Anne-Catherine.
Bonsoir Olivier, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Je suis Olivier Ravaille qui interviewe Anne-Catherine pour vous. Ceux qui nous suivent nous connaissent. Notre créneau est de 21h30 à 22h30 et ce soir nous poursuivons le cycle En route vers la paix que nous avons commencé il y a 2 mois. Et ce soir, nous proposons le thème suivant, c'est faire la paix avec son travail.
Eh oui, vaste sujet.
Peut-être nous pourrions commencer par une présentation d'Anne-Catherine et nous parler aussi de vos actualités, si vous le voulez bien. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en direct sur le site de Radio TerraZen, radioterrazen.net, à la rubrique bouton poser une question, ou sur émission RTZ, tout attaché en un seul mot, émission RTZ, -psychologie@outlook.fr. Je répète, émission RTZ, -psychologie@outlook.fr. Je vous rappelle qu'Anne-Catherine est psychopraticienne et sophrologue à Fontenay-sous-Bois, donc elle exerce depuis 18 ans. Et vous pouvez retrouver les informations la concernant sur son site internet www.anne-catherine-sabas.com www.anne-catherine-sabas.com. Vous voulez bien nous parler de votre actualité, Anne-Catherine ?
Alors, mon actualité, en fait, je vais avoir un week-end un peu chargé, puisque je serai, mais avec vraiment grand plaisir, samedi qui vient donc de 10h à 13h, à la rencontre des lecteurs, des promeneurs, des passants et des voisins aussi, dans une librairie que les Fontenaisiens connaissent, qui s'appelle la librairie Motamo, à Fontenay-sous-Bois, où j'exerce. C'est une petite librairie fort sympathique et qu'elle mérite de tenir le coup encore face aux géants de la distribution, il faut quand même le rappeler. Et donc, je serai sur place donc samedi matin de 10 à 13 heures pour des dédicaces de livres, pour discuter avec vous. J'ai d'ailleurs une dame qui m'a appelée cette semaine, qui m'écoute peut-être ce soir, une petite conversation très sympathique. Donc, c'est aussi, bien sûr, l'occasion de discuter, de vous rencontrer, et puis d'échanger sur des choses et d'autres. C'est sympa dans les signatures, les gens ne viennent pas forcément pour acheter des livres, mais aussi pour des jolies rencontres. Donc ça, c'est samedi. Dimanche, nous avons avec Isabelle Augmar, que je vous invite à découvrir sur mon site, qui est une thérapeute et amie. Nous avons notre groupe thérapeutique qui s'intitule les journées alchimiques, où nous allons proposer des trucs, des exercices, des expériences pour aller favoriser l'émergence de quelque chose. Alors, chacun voudra faire émerger quelque chose de différent, bien sûr. Et puis, parfois, nous avons des surprises. Au printemps, c'est souvent ça. On plante des graines et puis, tout à coup, on voit sur son balcon pousser un truc. On ne sait pas trop ce que c'est. Et ça s'avère être une jolie fleur. Donc, voilà, nous allons participer à ça dimanche. C'est un groupe où il nous reste une place. Si quelqu'un a envie de se manifester, il est le bienvenu. Et puis, lundi 11, je serai interviewée par Vanessa, qui est la créatrice du site Atmosfeel, A-T-M-O-S-F-E-E-L, que je vous invite à découvrir. C'est un site vraiment passionnant, Expérience Atmosfeel, qui, outre le fait qu'il permet à chacun d'aller découvrir des œuvres picturales, littéraires, musicales aussi, il permet surtout à des créateurs de pouvoir créer des choses ensemble. C'est une très très jolie démarche que j'ai voilà, le plaisir d'accompagner et de soutenir. Et donc Vanessa m'interviewera lundi. Nous parlerons de choses et d'autres. Voilà pour l'instant, d'autres choses en prévision. Un salon en Belgique prévu au mois de novembre. Enfin, il va y avoir d'autres choses, mais je vous dirai au fur et à mesure. Et puis peut-être si une chose importante, ceux qui ont lu mon blog ces derniers jours ou qui ont reçu ma newsletter le savent, cela fait longtemps qu'on me demande de faire des courtes vidéos sur YouTube, enfin de mettre en ligne des petites vidéos. Vous trouvez d'ailleurs sur YouTube les vidéos de toutes les émissions que j'ai faites, auxquelles j'ai participé. Mais là, il s'agira d'émissions nouvelles sur des thèmes nouveaux. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai promis que la première vidéo serait en ligne avant fin avril. Voilà, donc chose promise, chose due. C'est une surprise à venir.
Très bien. Je vous rappelle la prochaine émission que nous allons faire sur qui poursuivra le cycle En route vers la paix, qui aura lieu le premier mardi de chaque mois, hein, comme vous êtes habitués. Ce sera donc le mardi 3 mai à 21h30 et nous explorerons le thème de faire la paix avec son passé.
Voilà, on s'occupera simplement du passé proche, hein, pas des vies antérieures ou du passé de nos parents, de nos grands-parents, de notre culture et de notre nation, hein, mais simplement déjà des quelques années que nous avons vécues, où nous avons parfois emmagasiné des mauvais souvenirs, des choses qui nous dérangent et avec lesquelles nous ne sommes pas toujours très tranquilles.
Très bien. Eh bien, abordons notre sujet.
Allons-y.
Faire la paix avec son travail, tout un programme, Anne-Catherine. Je voudrais rappeler d'abord que nous ne travaillons pas depuis au sens où on l'entend, c'est-à-dire au sens du CDI, du prendre le métro à 8h et rentrer chez soi à 17h. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est obligé de travailler. Disons que c'est une invention de la modernité, mais maintenant, nous, quand on entend travail, c'est forcément quelque chose de ce genre. Et du coup, c'est vrai que pour pas mal de gens, alors il se trouve que mon activité à moi professionnelle, c'est de faire des bilans de compétences, et donc je suis en contact, j'allais dire quotidiennement, avec des personnes qui viennent parce qu'ils ont marre de quelque chose dans leur travail. Alors ça peut être marre du travail en lui-même, marre de l'environnement, du management, de tout un tas de choses. Et donc je constate qu'en effet, le thème de l'émission est pertinent parce que nous sommes beaucoup à éprouver de notre travail des choses qui sont pas uniquement sympathiques, mais voilà, il y a beaucoup de gens pour qui travail ça veut dire contrainte et uniquement contrainte. Donc faisons la paix avec notre travail, ou en tout cas posons les premières pierres de cela.
Voilà, et Charles de Gaulle nous disait « La vie n'est pas le travail, travailler sans cesse rend fou ».
C'est de Gaulle qui disait ça, lui qui n'avait que la France en tête pendant des années, des années et des années, et qui était un travailleur acharné, et qui, lorsqu'il ne présidait pas, écrivait ses mémoires de guerre, par exemple. C'est marrant que quelqu'un comme ça dise ça, mais...
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, cet homme que je n'ai pas connu
n'avait
certainement pas l'impression de travailler.
Probablement.
Hein. Et c'est une des choses importantes quand il s'agit de faire la paix avec son travail. On est évidemment, en tout cas pour la plupart d'entre nous, obligés de trouver un moyen de gagner notre vie. Et certains le vivent comme en effet une contrainte, comme une obligation, on parle d'ailleurs de travail alimentaire, et puis d'autres, et j'ai la chance d'en faire partie, et vous aussi je crois Olivier,
on peut le dire,
font tous les jours quelque chose qu'ils aiment, qui les passionne, pour lesquels ils se sont peut-être à un moment donné ou pas sentis appelés, et qui leur donne l'impression, outre de gagner de l'argent bien sûr, ce qui n'est pas qu'une impression, de participer à quelque chose qui a du sens. Et faire la paix avec son travail, alors là on rentre dans le vif du sujet, peut-être sans préambule, mais tant pis, laissons-nous porter, laissons-nous mener. Faire la paix avec son travail, c'est déjà, à mon avis, et surtout, trouver une cohérence, une congruence, dirait notre ami Carl Rogers, une congruence entre ce que nous sommes et ce que nous donnons, entre l'être et le faire, finalement. Parce que pour la plupart des gens, on considère que le travail, c'est 8 heures par jour. Alors, je connais malheureusement beaucoup de gens qui travaillent plus que 8 heures par jour et qui aimeraient travailler moins. D'autres aimeraient travailler plus ou n'ont pas de travail. Mais bon, c'est communément admis que le travail, c'est 40, en gros 35-40 heures par semaine, 8 fois 5, voilà, pour faire court. Et passer ce temps toute la journée, si vous êtes mal dans votre peau, mal dans l'ambiance dans laquelle vous travaillez, c'est très très difficile parce que finalement, c'est l'endroit où vous allez être conscient le plus longtemps. Quand vous dormez, même si à certains moments vous vous disputez avec votre conjoint, quand il dort, vous ne l'entendez pas et vice-versa. Le travail, vous ne pouvez pas dormir, sauf peut-être à l'Assemblée nationale, mais ça c'est un autre sujet. Mais, excusez-moi, je m'égare un peu là, déjà ça commence fort, je sais, je m'étais pourtant préparée à essayer de rester dans le thème, mais je dérape déjà.
Oui, je ne suis pas d'accord avec vous, Anne-Catherine, il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale, il y a aussi au Sénat.
Ah oui, vous avez raison de le préciser. Donc, revenons à nos gentils concitoyens qui ne travaillent pas à l'Assemblée nationale, ce qui ne veut pas dire qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a que des gens méchants, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je reviens dans notre sujet. Donc, si vous travaillez 40 heures par semaine sans dormir en étant bien conscient, vous allez avoir du mal à supporter une ambiance difficile. Et là, en effet, la question va se poser, comment on fait la paix avec ça ? Alors, il se trouve qu'au fil des années de ma pratique, j'ai été amenée, peut-être malgré moi, et je le dis souvent, ce n'est pas un sujet que j'aurais choisi moi-même, parce que c'est un sujet lourd, la question de la souffrance au travail. C'est un sujet qui est tragique, qui est dramatique. Et les événements qui se passent actuellement en France, hein, je pense à la Nuit debout par exemple, mais il n'y a pas que ça qui se passe, nous montrent à quel point la souffrance au travail, à un moment, peut devenir intolérable et pousser quelqu'un à vouloir vraiment changer quelque chose dans cette société. Faire la paix avec son travail, c'est trouver comment on va gérer des situations qui parfois sont difficiles, dont on ne peut pas s'extraire.
C'est ça. Le faire la paix avec son travail n'est pas le fait de quitter son travail. Alors, ça peut, mais disons qu'on ne va pas prendre cet angle d'attaque tout de suite, parce que disons que, j'allais dire, c'est un peu trop simple. Ça, on pourrait le faire si on n'était pas dans la réalité. De dire bah, « vous avez qu'à changer ». Non, moi, mon activité fait que je suis tous les jours confronté à des gens qui viennent en bilan. Donc par définition, ils ont un problème avec leur travail ou avec leur motivation au travail, pour être plus précis. Hein. Mais il est hors de question de changer instantanément, de démissionner, etc. Et d'ailleurs, ça ne vient à l'esprit de... Les personnes qui, en bilan, me parlent de démissionner, sont vraiment... c'est exceptionnel. Ça arrive peut-être une fois sur 20. Je parle de démissionner sans avoir forcément quelque chose derrière, etc. Ça, la personne est vraiment, vraiment à bout. C'est vraiment, ça a quelque chose de où on se protège plus du tout. Mais sinon, la majorité des personnes que je vois savent très bien que malgré le fait que le travail soit contraignant pour eux de telle ou telle manière, il est hors de question de démissionner. Donc, en effet, les considérations matérielles, pour presque nous tous, je dis presque parce qu'il y a des gens qui ont la chance de pouvoir ne pas en tenir compte, c'est-à-dire qu'ils sont riches et ça roule, mais pour presque tout le monde, les considérations matérielles prennent le pas sur tout le reste. Et d'ailleurs, je le vois lorsque les personnes envisagent des projets différents, je vois pas mal de personnes qui arrivent et qui me disent « je gagne, alors, je sais pas, 3000 euros par mois, mais j'en ai marre, je veux faire quelque chose qui ait du sens. » Et qui ait du sens, alors après, c'est intéressant parce que chacun met des choses différentes dans avoir du sens, on en parlera plus tard, mais il n'y a pas non plus 50 000 thèmes sur le avoir du sens. Et lorsque se pose la question du salaire, moi je pose très vite la question aux gens, et à combien de salaire minimum vous pensez pouvoir descendre ? Parce que qui dit reclassement ou qui dit changement d'orientation dit recommencer, donc gagner pas beaucoup, etc. Et voilà, une petite parenthèse sur les questions matérielles qui sont forcément au cœur du sujet et qui font qu'on ne va pas dire aux gens si vous avez vraiment un problème avec votre travail, démissionner. Évidemment, ce n'est pas le propos. Voilà.
Mais c'est une parenthèse très intéressante, d'autant plus que vous avez des choses à dire, Olivier, là-dessus.
Ah, j'aurais pu faire l'émission d'une autre manière.
Absolument, et ça, ce n'est pas exclu d'ailleurs qu'un jour on puisse en faire une, entre parenthèses. Alors,
bonne idée.
Puisqu'on est sur le thème de la paix, hein, puisque c'est le thème générique de notre cycle d'émission, je vais rappeler quelque chose que je dis régulièrement et que vous m'entendrez peut-être dire à chaque émission, c'est que faire la paix avec quelque chose, c'est avant tout faire le tri entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire accepter d'aller vraiment se confronter à la réalité. Dans les déceptions qu'on peut avoir concernant notre travail, il y a beaucoup de problèmes de frustration liés à un manque de reconnaissance, à un manque de valeur, bien sûr, vous en avez parlé, et ça, c'est à mon avis encore plus grave, mais il y a surtout un décalage entre ce qu'on imaginait que le travail allait pouvoir nous apporter personnellement, et je ne parle pas simplement en termes financiers, bien sûr, mais en termes de reconnaissance, en termes humains, finalement. Et puis, cette réalité qui est difficile. On est dans une société où bien sûr, il y a une déshumanisation de plus en plus importante de beaucoup de choses. Et malheureusement, moi, je le constate dans mon cabinet, on me raconte des choses. J'en parlais d'ailleurs avec quelqu'un aujourd'hui. Je reçois des gens qui viennent de milieux extrêmement différents, avec des professions extrêmement différentes, des âges différents. Et partout, malheureusement, dans beaucoup de secteurs, on assiste à la même chose. Une déshumanisation. Alors là, ça touche la question de nos valeurs. Et nos valeurs, en effet, il me semble que si on s'obstine à essayer de faire quelque chose qui soit en opposition avec nos valeurs, on ne peut que tôt ou tard être en grande souffrance et même tomber malade. Et puis après, c'est peut-être de ça dont il faudrait parler, peut-être un peu plus en détail, il y a la question de nos attentes qui sont souvent démesurées. Alors ça, j'en ai parlé dans mon livre Triompher de la souffrance au travail aux éditions Bussière. Nous espérons souvent que dans notre travail, nous allons pouvoir, enfin, nous essayons de combler souvent des choses en termes de reconnaissance, en termes de gratification. Je disais à quelqu'un hier que... En fait, dans sa façon de travailler, peut-être qu'il était en train de régler un vieux complexe par rapport à une honte, parce que dans sa famille, quelqu'un aurait fait quelque chose qu'on juge mal. Donc c'est comme s'il fallait racheter quelque chose. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut se tuer à la tâche, qu'on peut en faire trop. On veut une reconnaissance qui ne viendra pas. On attend de nos collègues et de nos supérieurs hiérarchiques, la plupart du temps, une reconnaissance qui serait celle d'un parent symbolique. Hein, j'ai développé beaucoup ça dans le livre La souffrance au triompher de la souffrance au travail. On rejoue évidemment avec nos collègues, avec nos N plus 1 ou nos N moins 1, des choses qui n'ont pas été conscientisées que nous avons vécues dans notre famille. Alors il y a évidemment toutes les rivalités de la fratrie. Hein, le grand frère qui a toujours raison et qui coupe la parole toujours de la petite sœur, et la petite sœur qui se retrouve avec un collègue qui va agir de la même façon, et ça va la mettre dans des états pas possibles. Et puis, ce père ou cette mère qui ne nous a jamais regardé, qui n'a jamais pu nous faire un compliment, alors on va essayer d'en faire beaucoup pour attirer l'attention d'un chef, et ça ne vient pas. Et puis, toutes les trahisons, etc. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que on ne va pas travailler dans une entreprise pour régler nos comptes avec nos parents, avec notre histoire, pour aller combler nos manques. Mais souvent, inconsciemment, on est pollué par ça. Alors, ça crée des gros, gros conflits qui sont finalement des conflits entre nous et nous. De toute façon, dans la question de la paix, il y a souvent cette question. Si j'arrive à être en paix avec moi-même et avec mes attentes et conscientiser à peu près ce que je peux projeter des fois d'un peu démesuré, je vais pouvoir l'apaiser et arrêter de demander aux autres de l'apaiser à ma place. Et dans le travail, on retrouve ça. Et on le retrouve d'autant plus qu'il y a des impératifs, il y a des stress, il y a des délais, il y a donc des moments plus ou moins importants. Et malheureusement, ce que j'entends, c'est qu'il y a de plus en plus que ça, des moments de stress, des moments de pression qui font que le recul, affectif, psychologique est difficile à faire, à avoir.
Oui, comme disait le sage, alors je ne sais plus qui disait cette phrase, donne-moi la force de
Oui.
changer ce que je peux changer, donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, et donne-moi la sagesse de faire la différence entre les deux. Je trouve que ça s'applique bien à notre sujet, parce que à partir du moment où, pour une grande majorité de personnes, le travail est au départ une contrainte qui consiste, dont le but est de gagner de l'argent et qu'on essaye de rendre le plus agréable possible, le fait qu'il y ait cette contrainte à la base fait que, en signant un contrat de travail, on n'est pas libre au sens absolument libre d'avoir tout ce qu'on veut. Il y a forcément déjà le fait de signer ce contrat, on est déjà dans, comme on dirait en analyse transactionnelle, dans une contribution réciproque, c'est-à-dire que je m'engage à faire mes 8 heures par jour, entre parenthèses, même si c'est pas écrit, même si j'ai pas envie, même si j'en ai marre, même si, etc. Et donc, la manière dont vous parlez de nos attentes, je l'entends comme ça, c'est-à-dire il y a des attentes qui, on ne peut pas avoir des attentes infinies alors qu'on est dans un cadre qui déjà nous contraint par le contrat, qu'on s'engage à signer. Mais du coup, c'est vrai qu'on s'engage à le signer, qu'on trouve ça génial de bout en bout. Et alors voilà, oui.
Et c'est peut-être une question à se poser, enfin, vous êtes certainement confronté à ça. Il y a des gens qui ont plus de mal que d'autres à travailler seul ou à plusieurs.
Alors justement, je notais des choses pendant que vous parliez, et vous parliez de manque de reconnaissance, et moi, je trouve qu'il est intéressant. Alors, vous avez le point de vue de la psychopraticienne, moi j'ai un point de vue qui est une autre approche, mais je trouve que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, une question que je pose pendant les bilans, vraiment, de savoir quel genre de reconnaissance. Ou, à la limite, on peut dire de besoin, enfin, on met les mots qu'on veut là-dessus, mais de quoi on a besoin, en fait? Par exemple, il y a des gens qui, lorsqu'ils travaillent, ils ont besoin qu'on leur dise que c'est super, t'as bien bossé. D'autres qui ont besoin qu'on leur dise que on est bien avec toi, que c'est important que tu sois là. D'autres encore ont besoin qu'on leur foute la paix, c'est-à-dire qu'on leur dise rien. Des troisièmes ont besoin qu'on leur fasse une grande fête, etc. Et ce n'est pas les mêmes besoins. Et on ne peut pas appliquer, on ne peut pas généraliser le besoin de reconnaissance. Alors bien sûr, tout le monde préfère travailler dans une ambiance agréable, mais il y a des gens pour qui c'est absolument indispensable, sinon dépression. D'autres pour qui c'est accessoire du moment que autre chose, que le boulot est intéressant ou je ne sais pas quoi. Alors moi j'invite les personnes qui nous écoutent à se demander. Quel est enfin vous, auditeur, quel est le type de reconnaissance ou de besoin que vous avez pour vous sentir bien dans un environnement de travail, et de regarder si ce besoin est satisfait. Par exemple, quelqu'un pourrait, un travail qui semble l'intéresser, où il est au contact de gens toute la journée, etc. Puis en fait, la personne, elle a besoin de plages de retrait régulières. Et il se trouve que ça peut, rien que ça, ce besoin non satisfait tous les jours peut mener la personne à en avoir marre et puis à venir en bilan. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et la personne a l'impression qu'elle n'en peut plus de son boulot. Puis en creusant un peu, c'est pas vraiment le boulot. C'est simplement qu'elle a un besoin qu'elle n'arrive pas à caser dans son boulot. Et peut-être que ce serait quand même possible en parlant, enfin en tout cas de faire des compromis sur son besoin. D'autres personnes ont besoin qu'on leur fasse des retours un peu empathiques, un peu agréables, etc. Et puis finalement, chef d'équipe, c'est un butor qui parle à personne, etc. Alors que, et pour autant, le travail l'intéresse. Alors, auditeur, demandez-vous quel est le type de reconnaissance dont vous avez besoin. Et j'ai noté aussi de qui. Alors, de qui vous en parliez un peu, en général, c'est souvent du supérieur hiérarchique, mais pas toujours.
Mais pas toujours, absolument. Alors, ce qui fait qu'on pose la question à un moment donné dans un cabinet de psy de la reconnaissance et peut-être du manque de reconnaissance, c'est que le surmenage, les burn-out sont de plus en plus fréquents. Et
Absolument.
souvent, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui travaillent plus que ce qui leur est demandé. Alors, ça va vous sembler peut-être bizarre parce que on sait qu'on nous en demande de plus en plus et qu'il faut réussir à faire en une journée le travail que trois personnes devraient faire, etc. Ça, en effet, ça arrive souvent. Mais il arrive aussi, quand on creuse un petit peu, qu'on s'aperçoive que la personne qui est en surmenage fait plein de choses qu'on ne lui a pas demandé. Et si on lui propose d'essayer d'en faire un petit peu moins, surtout, elle ne veut pas, elle se défend, hein, parce qu'elle veut se montrer elle-même ou montrer aux autres à quel point elle est indispensable, à quel point elle est utile, elle a peur de perdre sa place, et donc elle ne peut pas dire non. Et c'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est une question intéressante, parce que si on arrive à mettre le doigt justement sur ce besoin de reconnaissance qui la pousse à être dans un déséquilibre, là, elle pourra peut-être retrouver une position qui sera plus juste et qui ira moins à l'encontre de son propre équilibre, en fait.
Alors, par exemple, la personne que vous citez, alors je ne sais pas quel serait son besoin, mais peut-être que une des choses qui pourrait lui être utile, on peut imaginer que c'est qu'on lui fasse peut-être plus de signes de reconnaissance sur son boulot et que elle ait une espèce de permission, alors qui vient normalement d'elle-même, mais enfin bon, une sorte de permission de ne pas trop en faire. Alors évidemment, j'entends des auditeurs qui sourient, comment est-ce qu'un manager pourrait permettre à son subordonné de ne pas trop en faire? Eh bien, j'allais dire, un manager intelligent, bon, c'est
Réducteur,
un peu
mais
réducteur, mais
on
enfin,
comprend ce que vous voulez dire.
un manager qui aurait un minimum de conscience sociale et qui ne serait pas trop sous pression lui-même de la part de ses managers, lui, a la latitude de faire ça. Moi, en bilan, il se trouve que depuis peut-être 2 ans, et surtout depuis l'année dernière, je vois arriver, allez, 2 personnes sur 3, ce qui est énorme, qui sont en arrêt. Avant, il y en avait 1 sur 10. Là, c'est 2 sur 3. Avant, je dis, il y a quelques années. Là, c'est 2 sur 3. Ça veut dire que moi, je vois de ma fenêtre où je vois peut-être 100 de personnes par an ou 150 en comptant les gens qui viennent mais qui font un problème bien. Et je constate que la pression du travail augmente à une vitesse grand V et que presque tout le monde est sous pression et que je constate, vous parliez de déshumanisation, et je notais qu'en fait la déshumanisation, elle est soit, en gros, soit c'est sur les tâches, soit c'est sur le management, ou soit c'est sur les conditions de travail, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les conditions, ça peut être, la personne, elle est payée le SMIC alors qu'elle fait un boulot super difficile. Déshumanisation sur les tâches, bah, c'est quelqu'un qui travaille à la chaîne, c'est quelqu'un qui travaille dehors, qui se fait arroser toute la journée, c'est quelqu'un qu'on méprise quand il est dans les jardins publics et que tout le monde lui crache dessus. C'est, voilà, déshumanisation là-dessus. Sur le management, vous en avez parlé dans la souffrance au travail, sur la pression relationnelle qui est exercée par les managers, et puis la déshumanisation sur l'environnement, c'est le fait, en gros, d'être contraint de travailler dans des conditions qui sont inhumaines ou déshumanisantes. Et moi, je vois ces trois-là en bilan. Ces trois thèmes-là. Et quand même, je pense que, d'après mon expérience, les deux thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est quand même la déshumanisation sur les tâches et sur le management, plus que sur l'environnement. Ça devient, voilà, je me dis, actuellement, le monde du travail est en train de devenir un monde où, en effet, les gens sont de plus en plus des numéros, des robots, et sont enfin, obligés. Alors, on n'est jamais obligé, mais enfin, bien sûr, il y a les considérations matérielles dont on parlait au début de l'émission, sont un peu contraints de faire des concessions, sauf que les concessions sont en train de devenir monstrueuses. Voilà, pour gagner de l'argent, maintenant, il y a beaucoup de métiers dans lesquels les personnes sont invitées à faire des choses qui sont inintéressantes et en plus sous une pression hiérarchique d'en faire.
Je vous écoutais, Olivier.
J'en suis
Voilà.
ravi, Anne-Catherine. Donc oui, nous parlions j'invitais les auditeurs à se demander quel type de reconnaissance ils avaient besoin, parce que faire la paix avec son travail, ça peut être, en l'occurrence, puisqu'on part du principe que dans le travail, vous y restez, qu'est-ce que vous pouvez changer, hein? Je reprends le sage, donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Question, qu'est-ce qu'il est possible de changer? Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse unique à ça, ça dépend des cas.
Alors, il est souvent, j'en parlais tout à l'heure, possible de changer notre positionnement, hein,
Oui.
c'est-à-dire de modifier nos attentes, de clarifier ce qui peut être clarifié. Et là, on rentre sur un autre thème qui est le thème malheureusement de plus en plus courant aussi du harcèlement, d'aller faire ce travail de conscientiser quelles sont les relations qui ont besoin d'être clarifiées, celles qui sont vraiment toxiques. Quand on a affaire à des vrais manipulateurs ou des gens qui sont simplement eux-mêmes soumis à une pression qui ne leur laisse aucune latitude pour devenir un peu plus humain, et il y a une marge de manœuvre. Hein. Il y a une marge de manœuvre pour apprendre à dire non, pour apprendre à clarifier des choses, pour apprendre à sortir du harcèlement, des non-dits, etc. Je vous renvoie à mon ouvrage « Triompher des manipulateurs ». C'est un sujet qui mérite une émission, donc je ne vais pas le développer là-dessus. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre entreprise, dans notre façon de travailler. Après, il y a aussi toute une réflexion à mener sur comment nous nous investissons, quel enjeu nous mettons là-dedans, est-ce que ce n'est pas un peu démesuré? Ça rejoint la question de la reconnaissance. Qu'est-ce que je veux me prouver dans mon travail? Est-ce que je décide moi-même de donner 10 alors qu'il suffirait que je donne 5 et auquel cas je m'épuise pour rien, à part pour m'épuiser? C'est-à-dire quelle position j'adopte et comment je vis ça? Et ça, c'est aussi une question de gestion de notre énergie. Et puis après, il y a une question qui est même... Qui arrive, qui est à la base de tout ça, qui est la vision que nous avons du travail. Pour beaucoup d'entre nous, le travail est associé, vous le disiez tout à l'heure, à une contrainte, à quelque chose qui doit faire souffrir. Le travail vient du mot tripalarum, je crois, en latin. Tripalium, pardon, qui était un instrument de torture. Hein. C'est associé, la Bible nous dit, depuis que Ève a croqué la pomme et que Adam l'a croqué avec elle, tu enfanteras la sueur de ton front et tu gagneras, non, dans la douleur, pardon, et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Hein. Donc nous sommes condamnés à souffrir dans notre travail. Et ça, c'est une croyance qui est vraiment ancrée. Je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent ce soir ont entendu un père, une mère, un grand-père, une grand-mère leur dire « mais c'est normal, il faut t'accrocher, c'est normal que tu souffres, hein, il faut prendre sur toi. Hein, » Le travail, en gros, ça doit faire mal. Et là, il y a quelque chose à changer. Parce que nous sommes dans une société qui va mal, nous sommes dans un contexte économique, social, qui ne va pas en s'arrangeant. Et ça sous-entend, certains sont plus conscients que d'autres, ça sous-entend des licenciements, des plans sociaux, tout le monde a entendu parler de ça, tout le monde a été, sinon touché, au moins frôlé par ça, lui ou ses proches, j'ai envie de dire ses proches. Et cette espèce de déliquescence s'accélère de plus en plus, ce qui sous-entend que nous devons aller aussi modifier les croyances que nous avons, que le travail, c'est s'accrocher, c'est tenir bon, c'est continuer à souffrir, c'est essayer d'écoper un navire qui prend l'eau, et peut-être réfléchir, et ça, c'est les questions que je vous invite à vous poser, parce que nous avons envie d'aller mieux personnellement, mais aussi souvent de contribuer à ce que notre société aille mieux. Hein, comment nous pouvons réenvisager le travail différemment? C'est-à-dire quelque chose qui ait un sens, qui soit en accord avec nos valeurs, et qui soit peut-être moins toujours, je parle souvent de ça dans la question de la performance, de la compétition, mais quelque chose qui soit plus en accord avec nos rythmes, avec nos valeurs, avec nos besoins fondamentaux. Parce que la souffrance au travail, c'est quoi? C'est des maladies, c'est des pathologies, c'est des handicaps, c'est des gens qui sont brisés psychologiquement. Quand vous savez que les gens qui s'occupent de la souffrance au travail eux-mêmes en arrivent à démissionner, hein, je renvoie nos auditeurs au livre magnifique et bouleversant de Marie Peset, qui était la première, je crois, ou une des premières à mettre en place des consultations de souffrance au travail, et qui elle-même a subi ce qu'elle dénonçait depuis je ne sais pas combien d'années. Son livre s'appelle « Je suis debout, bien que blessée ».« Je suis debout, bien que blessée ». C'est un livre qu'il faut lire. Donc, quand les gens même qui dénonçaient et qui essayaient de faire quelque chose pour soulager leurs amis, leurs collègues, confrontés à la souffrance au travail, eux-mêmes en arrivaient à quitter le navire, forcés ou par choix. Bon, enfin, est-ce vraiment un choix de quitter quelque chose auquel on croyait? C'est encore une autre question. C'est vraiment que ça va mal. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous continuons à nous accrocher, à vouloir travailler 10 heures par jour, à nous bourrer de médicaments, à être stressés, ou nous essayons, j'ai envie de dire tous ensemble, de réfléchir à des solutions différentes, des solutions qui vont passer par peut-être moins d'efforts, mais aussi moins de revenus. Mais dans la balance, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la santé, mais nous avons aussi tout ce qui tourne autour de quelqu'un qui souffre au travail. sa famille, son couple, ses enfants. Hein, comment, dans quel état est la famille, les enfants, la santé, et je dirais même toute la famille de quelqu'un qui est surmené, fatigué, sous antidépresseur, arrêté, qui n'y croit plus, qui n'en peut plus, qui est en burn-out. Hein, c'est une catastrophe globale. Voilà. Donc c'est tout ça, je crois, qu'il faut observer avec beaucoup d'attention. C'est le Dalai Lama, je crois, qui disait ces Occidentaux, ils sont incroyables, ils passent leur vie à se crever pour gagner de l'argent, et puis finalement ils sont tellement fatigués et tellement malades à la fin de leur vie, tellement ils ont travaillé, qu'ils dépensent en dépenses de santé tout ce qu'ils ont amassé en se tuant. C'est un cercle vicieux qui est, quand on le regarde avec un petit peu de recul, qui est presque ridicule, qui est absolument absurde. Et faire la paix avec son travail, c'est aussi ça. C'est revoir nos choix, revoir nos ambitions, revoir cette espèce d'instinct de compétition qui, des fois, nous fait faire des choses qui vont complètement contre nous-mêmes. Hein, c'est prendre le temps de se demander... d'avoir une vision finalement globale de notre vie, de notre existence. Parce que si nous continuons à cloisonner, qu'est-ce qui se passe? On cloisonne tellement qu'on se retrouve au fond du lit. Hein?
Absolument. Dans ma pratique personnelle, enfin professionnelle, les personnes qui viennent en pré-dépression ou en pré-burnout commencent à être de plus en plus nombreuses. Tout à l'heure, vous parliez de la force de changer quoi et la force de changer nos attentes. Et j'allais dire le courage d'accepter qu'on ne peut pas changer sa hiérarchie. Je parle lorsque les pressions et les problèmes viennent du management, et Dieu sait si c'est fréquent. Il n'est pas possible de changer quelqu'un et de changer le comportement d'un manager. En revanche, il est possible de changer son comportement vis-à-vis de son manager et de changer aussi la représentation qu'on a de la relation qu'on a avec son manager. J'ai un exemple en tête qui est très concret et très récent. C'est une personne que j'ai eue en bilan et qui m'explique qu'elle travaille dans une société qui fait des prestations paramédicales, on va dire. Et qui, en fait, une petite boîte de 10 où ils sont 15 personnes, et elle a en gros le plus petit salaire de toute l'entreprise, et c'est elle qui tient la boîte. C'est-à-dire que tous les salariés le savent, elle est en gros le bras droit du patron, elle fait la gestion des ressources humaines, elle fait les plannings des autres, elle fait la production elle-même lorsqu'il le faut, et elle est le plus petit salaire. Et donc elle ajoute, mais ça ne me le dit pas tout de suite tellement c'est gênant, elle ajoute qu'en fait elle est donc obligée de travailler le samedi et le dimanche en plus, le samedi et le dimanche. C'est-à-dire, elle ne se repose jamais à s'occuper comme auxiliaire de vie d'une personne âgée, ce qui est un truc qui est, pour ceux qui connaissent la question, c'est pas un boulot de tout repos. Donc en fait, elle se retrouve à travailler 5 jours sur 7 dans sa boîte qu'elle gère, où elle gagne le salaire le plus petit de toute la boîte, et à bosser le week-end, et donc à pas voir ses enfants. Et du coup, lorsqu'elle a entendu, moi à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais lui dire ou pas, mais je lui ai dit oui. Pensez à vos enfants, enfin, je veux dire, quand vous faites ça, vous ne voyez pas vos enfants. Donc évidemment, il y avait un grand blanc, et là, vous disiez, ça rejaillit sur la vie perso, en l'occurrence, ça rejaillit sur sa vie perso, elle ne voit pas ses enfants. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'ose pas, enfin, en tout cas, elle a beaucoup de scrupules à aller demander une augmentation qu'elle mérite, mais alors, à 300%. Et du coup, cette manière de protéger son patron qui ne la protège pas, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il se repose intégralement sur elle, et il lui dit en plus, hein, c'est ça qui est le comble du cynisme, et elle ne veut pas lui demander parce que ça la gêne, voilà. Et puis il se trouve que le patron a un petit problème perso, et du coup, alors là, bon, elle attend encore parce qu'il ne faut pas le déranger pendant qu'il a un problème perso. Et ce genre de situation où on a un management cynique, alors évidemment, c'est pas une généralité, mais en tout cas, ça c'est une source importante de gens qui viennent là. Voilà ce que. Et là, pour quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'elle peut changer? Et d'ailleurs, on y avait travaillé. C'est à avoir le comment dirais-je le j'allais dire la colère et le courage d'aller demander son augmentation comme quelque chose d'absolument nécessaire. Et elle a aussi le courage de penser que bah, elle ne pourra pas changer son manager.
Voilà, alors vous pointez cette question-là, peut-on changer son manager? Souvent, on imagine qu'on ne va pas pouvoir changer une situation parce qu'on n'a pas essayé. Et je pense que dans votre
Absolument.
métier, enfin, vous le dites, vous êtes confronté à ça souvent. Il est important de se demander qu'est-ce qu'on peut faire, dans quelle mesure on a une marge de manœuvre. Et il faut tenter. Alors, il faut tenter, bien sûr, en mettant les formes, en trouvant le moyen d'élaborer ça. Et je pense que vous aidez des gens à faire ça. Moi aussi, ça
Entre
m'arrive.
autres. Entre autres.
C'est-à-dire que faire la paix avec son travail et faire la paix avec n'importe quoi, c'est, nous le répétons régulièrement, sortir d'une position de victime et de résignation. Tenter quelque chose, réfléchir, hein, quel est le problème, quelle est notre demande, la clarifier et voir après s'il y a une possibilité de poser clairement cette demande. Moi, j'ai entendu des histoires de patrons qui disaient à leurs employés « Ah bon, mais tu voulais avoir un RTT ou un tel avantage, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé avant ?» Et alors, la personne, elle est
Elle était
super
persuadée.
en colère parce qu'elle se dit mais mince, il se moque de moi. » Mais non, il ne se moque pas forcément. C'est-à-dire que vous ne lui avez pas demandé. Hein, il faut tenter. Alors parfois, bien sûr, tout ce que vous demandez, ça tombe à l'eau, ça tombe vraiment à plat. Mais tenter le coup, je crois que c'est, il y a une marge de manœuvre. Faire la paix avec son travail, c'est faire la paix avec la réalité, je vous le disais tout à l'heure. Et pour faire la paix avec la réalité, il faut d'abord la connaître et s'y confronter. C'est-à-dire aller se poser la question, est-ce que là, je peux changer quelque chose ou pas? C'est une question fondamentale dans l'existence. À chaque jour, nous devrions nous poser cette question. Je me plains de telle ou telle chose, quelle est ma marge de manœuvre? Et si j'expérimente que je n'en ai pas, si j'essaye une chose et puis une autre et une troisième et une cinquième et que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'à un moment je pourrais me dire, bon, je laisse tomber, d'accord, mais laisser tomber avant même d'avoir essayé, ça me semble vraiment très, très, très dommage.
Absolument. Et pour reprendre le cas de la dame dont je parlais à l'instant, ce que j'ai constaté, c'est qu'elle... comment dirais-je, alors même que son patron lui disait, et lui dit, et lui répète à quel point elle est indispensable, elle, en quelque sorte, a plus peur que lui de demander. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, en gros, elle a peur de se faire licencier, et donc on a parlé de ça, et je l'ai invité à avoir un point de vue qui était un peu différent sur le fait que son patron est terrifié à l'idée de la perdre.
Bien sûr.
Et donc, probablement, qu'il lui accorde cette augmentation, encore faut-il qu'elle lui demande, et bien sûr, il y aura de la résistance. Mais ça me fait penser à une image où on voit un homme politique tout seul sur une espèce de plongeoir, il est dans le vide, sur une falaise, et sur la falaise, il y a une foule qui est de l'autre côté du plongeoir et qui écoute, comment dirais-je, servilement cet homme qui parle. Sans se rendre compte, la foule, que s'ils font simplement un pas de côté, en fait, ils font un pas de côté, et puis le plongeoir, il tombe, tout simplement, et lui, il tombe. Donc, en gros, l'autorité de cette personne qui leur parle ne repose que sur la croyance qu'il est supérieur, qu'il est plus intelligent, plus influent, plus beau, plus je sais pas quoi. C'est tout. Point.
Et à vrai dire, j'imagine que dans votre pratique, vous n'avez pas dû rencontrer souvent des gens qui ont été licenciés parce qu'ils avaient simplement demandé une augmentation. Un patron qui ne veut pas donner une augmentation, il ne la donne pas, mais il ne va pas vous licencier parce que vous avez osé demander quelque chose.
Ben, moi, je rencontre beaucoup de personnes en bilan qui sont un peu comme cette dame, c'est-à-dire qui font beaucoup plus que leur travail, et ce qui sous-entend donc qu'ils doivent imaginer qu'ils sont obligés de faire beaucoup plus, et qui sont donc très sensibles, exagérément sensibles, au fait de, si jamais ils font moins, ils vont être licenciés. Ce dont ils ne s'aperçoivent pas, et c'est tout à fait normal qu'ils ne s'en aperçoivent pas, c'est qu'en fait, leur patron a terriblement besoin d'eux. Alors, évidemment, je relativise, hein, il y a des entreprises dans lesquelles il y a un turnover d'enfer, où en effet, la personne peut dire ce qu'elle veut, on la licencie, on en trouve une autre. Mais pour la dame dont je parlais tout à l'heure, c'est impossible, le patron ne peut pas trouver quelqu'un qui a toutes ses compétences en l'espace de 2 ou 3 mois même, hein. Il ne peut pas. Ça veut dire qu'en fait, elle est vraiment indispensable et qu'elle est en train d'écouter le patron qui... Le patron, en fait, est au-dessus de la falaise, il parle, et elle, elle pense en fait qu'elle est que lui est plus indispensable que elle n'est indispensable. Et en fait, c'est le contraire. Le pire de tout, c'est qu'il lui dit. Et pour autant, donc là, ça rejoint quelque chose qui est de l'ordre des messages personnels qu'on a chacun d'entre nous, un peu contraignant. Et moi, quand je vois ça, c'est très émouvant et très énervant, en fait. C'est terriblement injuste de voir qu'un patron qui lui dit oui, si t'es pas là, la boîte s'écroule, et donc elle prend une semaine de vacances, jamais plus. Ce qui fait qu'en fait, elle tient la boîte et c'est elle qui gagne le moins. Et progressivement, en lui montrant que, à un moment, elle me parle du fait qu'il y a des gens dans son entreprise qui ont une prime de responsabilité de 400 euros. Et cette prime de responsabilité, c'est pour un truc qui leur prend 5 minutes par mois, alors qu'elle tient la boîte en faisant la moitié de choses qui ne sont pas dans son contrat. Et progressivement, bien que ce soit son vécu de tous les jours, elle s'est dit, mais oui. Enfin, en posant simplement les choses sur le papier, je lui ai dit, mais les primes de responsabilité de 400 pour l'autre, mais vous, c'est quoi qu'il vous faut? Alors, c'est une prime une prime de béatitude. Enfin, elle est de combien? 3 000. Et de fait, je suis sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait gagner au moins le double de ce qu'elle gagne. Mais elle s'en apercevait pas parce qu'elle a pris l'habitude, comme vous le disiez tout à l'heure, de faire 2 fois plus que son boulot. Et cette habitude-là devient une habitude. Et du coup, quand on est tout seul, comme c'est son cas, à regarder sa propre situation, eh ben on perd les repères. Et l'intérêt pour elle de venir en bilan, entre autres, c'est que, ou ça aurait pu être un coaching ou un accompagnement du type que l'on veut, mais le fait que quelqu'un d'autre comme moi lui dise, mais attendez, regardez, lui mette un miroir avec la situation devant les yeux, tout d'un coup lui fait prendre conscience de choses qui en fait ne sont plus que sa réalité, mais dont elle ne s'apercevait plus, quoi, parce qu'elle est trop dedans.
J'aimerais bien, Olivier, je pense vraiment que vous devriez faire peut-être quelques émissions sur ce thème-là. Hein, on en reparlera hors antenne. Je voudrais juste aborder quelque chose parce que l'heure tourne et il nous reste un
Avec
petit quart
plaisir.
d'heure. La question de la vocation, la question de faire un travail que nous aimons. Hein.
Oui.
C'est Confucius qui nous disait, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Voilà. Alors, dans ces temps difficiles où les entreprises licencient à tour de bras, je renvoie au travail de notre ami Pierre Jovanovic, qui nous fait une description absolument réaliste chaque début de semaine de tous les licenciements.
Oui, je dirai un mot après là-dessus, allez-y,
D'accord.
finissez.
Bon, enfin, dans ces temps difficiles auxquels nous sommes confrontés et qui nous obligent parfois à changer nos plans, je crois que c'est une question que nous devons oser nous poser. Je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure par rapport à nos croyances, à nos valeurs. Est-ce que nous croyons que le travail est associé forcément à une souffrance terrible ou qu'il peut être un facteur d'épanouissement et s'inscrire dans notre réalisation, la réalisation de notre être, mais aussi la contribution à quelque chose qui puisse servir, sinon l'humanité, au moins quelques personnes ou notre société. Et évidemment, quand on va dans ce sens, tout est plus facile. Hein. Vous parliez tout à l'heure des contraintes qui sont inhérentes à chaque profession. Moi, je fais quelque chose dans ma vie que je n'arrive même pas à appeler un métier. C'est pas un métier d'être psychothérapeute. Mais pourtant, j'ai des contraintes aussi. Je dois payer des impôts, je dois remplir des déclarations, je dois être à l'heure le matin, je dois rappeler mes patients quand ils décalent un rendez-vous, etc., etc. Mais tout ça s'inscrit vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'un bonheur. C'est même pas un plaisir, c'est un bonheur. Il y a un film dont j'aimerais vous parler, moi qui m'a beaucoup marqué, qui est un film qui s'appelle L'âge de raison avec Sophie Marceau. Certains l'ont peut-être
Oui.
vu, moi ce film m'a bouleversée déjà parce que j'aime beaucoup Sophie Marceau et puis parce qu'il parle vraiment de ce problème. Sophie Marceau, qui est une femme qui a une situation florissante dans une grande entreprise, est à une crise, la crise de la quarantaine, comme ça arrive à certains, et elle s'interroge. Bon, et elle est prête en fait, elle est dans une phase de sa vie où elle est prête à remettre des choses en question et elle va recevoir des lettres. Hein, des lettres qui sont écrites par un enfant. Et en fait, elle va petit à petit découvrir au fil de. Je vais pas tout vous raconter, mais je vais quand même vous citer une des lettres. Cher moi-même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que je fais à l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir. Voilà. Donc, vous comprendrez certainement ce qui se passe. C'est que cette petite fille de 7 ans a écrit des lettres à la femme qu'elle allait devenir et elle a fait ce qu'il fallait pour que la femme qu'elle allait devenir puisse un jour recevoir les lettres de la petite fille qu'elle avait été. Et moi, cette histoire me bouleverse parce que je fais partie des gens qui, je pense, ont la chance d'avoir réussi à ne pas quitter leur rêve d'une semelle et malgré des fois des moments difficiles à faire ce qu'il fallait pour les faire éclore et je vais continuer, ça, croyez-moi. Et je sais à quel point c'est précieux de pouvoir se dire ça. Donc voilà, tous ceux qui nous écoutent ce soir, c'est vraiment la question que je vous pose. Dans ces moments où votre travail est difficile, dans ces moments où vous avez peur d'être licencié, allez vous accorder un temps où vous pouvez, faites-le pour jouer, faites-le pour rire, hein, comme disent les enfants, on le fait pour du beurre, juste pour rire. Amusez-vous à vous souvenir de quoi vous avez rêvé quand vous étiez enfant. Alors certains voulaient être astronautes, ou, etc. Il y a des choses qui sont plus possibles et qui ne le seront jamais, évidemment. Mais parmi tous ces rêves, parfois un peu délirants, on peut retrouver des choses qu'on avait plantées quelque part dans le fin fond de notre inconscient. Hein. Et dans ce merveilleux film, il y a Sophie Marceau qui retrouve son amie d'enfance. Et son amie d'enfance, il voulait être creuseur de trous. Hein. Alors on voit des images magnifiques où ils vont creuser des trous, cacher des trésors, etc. C'est des gamins. Et le monsieur, il est devenu creuseur de puits en Afrique. Il est devenu creuseur de trous. Bon, moi, ça me bouleverse, ça, parce que cet homme, il a réussi sa vie. Et je crois que c'est ça qui compte. Qu'est-ce que nous avons laissé en route sur notre chemin, des graines qui n'ont pas réussi à éclore parce que nous ne les avons pas arrosées. Et croyez-moi, si nous n'arrosons pas ces graines, elles vont revenir nous hanter. Alors prenons le temps d'aller chercher au fin fond de notre cœur tous ces petits rêves que nous avons abandonnés et voyez si justement les crises, les souffrances au travail, les licenciements, les dépressions, les burn-out, les insatisfactions, les engueulades avec les patrons et tout ce qui peut se passer de désagréable dans une vie professionnelle ne sont pas des opportunités qui vous sont servies sur un plateau d'argent pour aller remettre ces petites graines devant vos yeux, les couver avec beaucoup de lumière, beaucoup d'eau et beaucoup d'amour pour enfin réaliser ce pourquoi vous êtes sur cette planète.
Absolument. Et parfois, les tempêtes peuvent être des opportunités. Je pense à quelque chose qui est d'actualité. Là, par exemple, la loi El Khomri, dont on pense ce que l'on veut, mais qui est en train de déclencher, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui est en train de déclencher une mobilisation un peu dans tous les sens, et je trouve ça magnifique, parce qu'au fait, c'est notre sujet, c'est pas n'importe quelle loi, c'est une loi, je me positionne un peu, mais c'est une loi qui, de mon point de vue, appuie d'une manière ultra-libérale un marché du travail qui l'est déjà beaucoup.
Alors, ce n'est pas que de votre point de vue, Olivier. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui se sont déjà mobilisées parce qu'elles se sentaient concernées par les régressions que cette loi supposait au niveau des acquis sociaux, etc. Alors, et là, nous parlons de gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, du milieu, du bas, du haut. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas le seul à penser ça.
Absolument. Et il se trouve que c'est important, je trouve, qu'il y ait mobilisation sur le sujet parce que là, on est en train de parler du macroéconomique et quand on parle du redonner du sens, enfin, faire la paix avec son travail, on parle de soi, de l'individuel, de comment je fais la paix avec mon travail. Mais il se trouve que c'est lié parce que si les entreprises peuvent licencier plus facilement, si les entreprises, un morceau de la loi qui a été peu commenté, si les entreprises peuvent maintenant, licencier directement quelqu'un qui est en inaptitude sans même lui proposer des reclassements en interne, ces lois sont faites à l'évidence pour les grandes entreprises et pas pour les petites, parce que les petites n'ont pas ce genre de problème. C'est des lois qui sont faites pour les grandes entreprises, qui sont donc, à mon avis, ultra-libérales, sous un gouvernement de gauche, je trouve ça absolument scandaleux, et je trouve magnifique la manifestation, le siège qui est fait en ce moment de la place de la République. Alors évidemment, on peut trouver tout un tas d'imperfections, à ce genre de mouvement. Mais ce qui est magnifique, c'est que ce mouvement a lieu et que, encore une fois, pour nos auditeurs qui suivent ça distraitement, trop distraitement peut-être, sachez que ce mouvement va être rejoint par d'autres. Les agriculteurs sont en route. Une mobilisation sur la police, les CRS, est prévue le 10 juin. Place, c'est la Concorde ou c'est la République?
Concorde.
La Concorde. Et si tous les... En fait, c'est quoi tout ça? C'est le peuple. C'est les gens qui sont des gens qui bossent. Alors, sauf les étudiants. Mais les étudiants, dans 3 ans, feront partie des gens qui bossent.
Et les étudiants vont bosser et se demandent comment ils vont trouver du travail. Ils
Et
sont
du coup,
concernés.
le point commun de tous ces gens dont, j'allais
Dont
dire,
nous faisons
dont
tous
nous faisons
partie.
là, dont nous faisons tous partie, ce sont des gens qui échangent quotidiennement de la force de travail contre un salaire qui est bon, qui permet de vivre, mais qui pour la plupart des gens permet de vivre, de vivre, voilà, de survivre. Et je trouve que c'est un mouvement qui est magnifique et qui moi me stimule beaucoup personnellement. Alors donc je disais que cette loi El Khomri, par exemple, elle est importante dans notre sujet, c'est que si une loi comme ça passe, ensuite ce dont on parlait tout à l'heure, qui est il faut revoir nos attentes. Si une loi comme ça passe, il va falloir revoir toutes nos attentes. C'est-à-dire qu'il va falloir tout revoir, puisque il y aura une liberté beaucoup plus grande qui sera accordée aux employeurs sur le licenciement, sur le fait de licencier avant même d'avoir proposé des reclassements aux gens. J'en passe et des meilleurs. Et donc, c'est important de se mobiliser, je trouve, sur cette loi, parce que si le gouvernement, insensiblement, parce qu'en fait, c'est ça, le gouvernement est habitué depuis des années à insensiblement moderniser. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moderniser, ça veut dire ultra-libéraliser. Hein, c'est toujours synonyme dans les mesures. Si le gouvernement est capable de, insensiblement, comme la grenouille qu'on chauffe, hein, c'est nous la grenouille, est capable de faire passer insensiblement des mesures comme ça et se dit, il n'y a pas de raison, de toute façon, on s'en fout, on continue, personne ne dit rien. Et là, tout d'un coup, crac, ils ont dépassé sans s'en apercevoir une espèce de ligne invisible qui fait que là, tout d'un coup, il y a un mouvement. Et c'est important parce que si des lois comme ça passent, l'émission, on la refait l'année prochaine et on dira aux gens, dans ce cas-là, il va falloir revoir toutes vos attentes. Donc, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller s'informer sur Facebook, alors pas à la télé, parce que tout à l'heure, alors c'est magnifique, j'écoutais les radios mainstream dans la voiture qui disaient mobilisation contre la loi du travail. Mais en fait, c'est pas contre la loi du travail. Si on écoute bien ce qui est dit Place de la République, c'est beaucoup plus que la loi du contrôle du Khomri. C'est le système tel qu'il est en ce moment. C'est-à-dire priorité au capital sur le travail. Et c'est ça qui est remis en cause. Alors, donc, pendant que nous pouvons encore, hein, donc pour revenir sur notre sujet, faire la paix avec son travail, comme vous le disiez, c'est notamment revoir nos attentes, c'est-à-dire revoir nos attentes sur la situation ou sur les autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par contre, il y a des choses qu'on peut changer, qui est de sortir de cette position, de
De
cette
victimes.
éventuelle position de victime, et de se dire, est-ce que je peux peut-être essayer quelque chose, et puis voir si ça marche ou pas. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, essayer quoi? Je ne saurais trop conseiller aux personnes qui nous écoutent d'utiliser des prestations qui sont encore à disposition, mais à mon avis pas pour très longtemps, qui s'appelle le bilan de compétences. Alors, je prêche pour ma paroisse, mais il n'y a pas tant de prestations à l'usage des salariés. Je crois qu'il y en a qu'une. Hein. Donc, voilà, je la cite. Bilan de compétences. Hein. Il y a plein de centres. Hein. Moi, je suis un des 200 centres de la région parisienne. Donc,
Voilà, et je peux le mentionner d'ailleurs, votre entreprise s'appelle Progélia.
absolument. Et je travaille dans la petite couronne nord-parisienne. Et donc, je ne saurais trop conseiller aux gens d'aller se faire aider. Par moi, par d'autres, etc. Parce que souvent, et vous l'avez écrit aussi dans votre livre sur les manipulateurs, la souffrance au travail, pardon, on est seul. Je repense à la dame dont je parlais tout à l'heure, elle est seule avec ça. Elle est toute seule. Et donc, elle ne voit pas quoi faire puisqu'elle est toute seule. Et en ce qui concerne nos rêves, alors c'est très émouvant ce que vous dites, parce qu'évidemment, on
Mais
a.
ce film m'a bouleversée, vraiment m'a bouleversée. Et d'ailleurs, vous voyez, ce soir en parlant, j'étais encore très très émue. Il y a une fraîcheur et ce livre nous ramène, ce livre, pardon, ce film nous ramène vraiment à l'essentiel. Hein. Parce que moi, j'ai travaillé avec des personnes en fin de vie il y a plus de 15 ans. Et parmi les regrets les plus mentionnés, hein, qui reviennent quand quelqu'un arrive à la fin de sa vie, Il y a bien sûr toutes les catastrophes relationnelles. Il s'est engueulé avec son ami d'enfance et il n'a jamais recollé les morceaux, sans parler des enfants, des parents, des membres proches de la famille. Et puis il y a, et ça revient fréquemment, cette question d'avoir loupé sa vie parce qu'on n'a pas été à sa place. On aurait voulu être, comme le dit la chanson, j'aurais voulu être un artiste et en fait je ne l'ai pas fait, je suis devenue un homme d'affaires. J'aurais voulu être jardinier et puis j'ai été, moi je connais quelqu'un qui aurait voulu être chanteur d'opéra et qui est devenu éditeur. Alors c'est un beau métier. Qui est éditeur aussi. Mais bon, il fait des soirées d'opéra dès qu'il peut. Voilà. Et ça, c'est important parce que ces rêves non éclos sont des pressions qui nous poussent, qui nous hantent, qui nous torturent.
Alors finalement, pour faire la paix avec son travail, alors évidemment on n'épuise pas le sujet, hein, bien sûr, en une heure, mais les pistes dont on a parlé, là on arrive en fin d'émission, les pistes sont, c'est important de savoir de quel signe de reconnaissance on a besoin ou de quel besoin on a soi-même besoin au travail. Est-ce que c'est plus des besoins qui concernent la tâche, qui concernent les relations, qui concernent, que sais-je?
Mais nous revenons toujours à la même chose, Olivier, au connais-toi
Ou
toi-même.
connais-toi toi-même, et de faire la différence aussi entre ce qu'il est possible de changer, c'est-à-dire sa façon de voir les choses, et ce qu'il est impossible de changer, qui est donc une attente illusoire, qui est je veux que mon boss change de comportement. Non, ça marche pas, il change pas de comportement. Je veux que la situation change. Non, ça change pas. Par contre, voilà, le travail qu'on peut faire pour contribuer à faire la paix avec son travail consiste à changer sa représentation et voir ce qu'on peut soi-même aménager pour améliorer la situation, tout en sachant que bah, si on est en poste, on ne va pas démissionner et que ça ne va pas instantanément devenir le paradis, mais en tout cas, on devient acteur de comment je peux améliorer moi-même la situation, moi à mon niveau, dans la relation avec mon patron, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et vous parliez de nos rêves. Alors, bon, évidemment, moi, ça, en bilan, je vois ça beaucoup. Les gens qui arrivent, et ça fait partie du début du bilan, d'ailleurs, de faire parler la personne sur ce qu'elle aurait voulu faire, etc. Ce qui fait remonter des intérêts profonds et toujours présents, qui ne sont pas forcément réalisables, mais enfin, voilà, c'est important autant qu'on le peut, de ne pas perdre complètement de vue les rêves qu'on avait quand on était petit, même si on ne peut pas le faire en travaillant. Quelqu'un qui aurait voulu devenir astronaute, alors bon, comment faire pour nourrir ce qui reste de l'intérêt de l'astronaute dans la vie quotidienne? Peut-être c'est dans sa vie privée, peut-être c'est le week-end. Voilà, alimentons nos rêves, c'est important, et
Absolument.
vous le disiez.
Oui, parce que ce que nous aimons faire, nous le faisons bien et nous le faisons avec le sourire. Et ce que nous nous forçons à faire, je parle pour moi peut-être, mais je ne suis pas la seule sur la planète à fonctionner comme ça, ce que nous nous forçons à faire, nous le faisons de manière, nous le vivons de manière désagréable, donc nous ne transmettons pas la même chose. On voit quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. Il y a une magnifique chanson de Goldman comme ça, qui est très belle, où il cite des corps de métier. Il y mettait sa vie, il y mettait son cœur. Et nanana, nanana, et ah, je sais plus.
Oui,
Il changeait la vie.
c'est
En fait,
ça.
il c'était un. Voilà, c'est ça. C'est exactement
Oui,
ça.
ok.
Elle est très belle cette chanson. Il faisait les choses avec cœur et quel que soit son métier, il y mettait tout son être, tout son cœur, toute sa joie. Et donc forcément, il touchait les gens qui l'entouraient parce qu'il donnait. Il donnait du bonheur. Il donnait de la joie.
C'est
Voilà.
une belle fin.
Et j'espère que nous vous avons donné un petit peu de joie ce soir.
Voilà, et donc je me permets de vous inviter, auditeurs, pour ceux qui auraient comment dirais-je, des questionnements, un j'en ai marre, hein, quelque chose comme ça sur leur travail, à venir prendre un temps pour eux, pour effectuer par exemple un bilan de compétences. Voilà, moi j'en réalise, et encore une fois, il y a beaucoup d'autres prestataires qui font ça, et qui sert à éventuellement définir un projet professionnel alternatif, mais qui sert presque systématiquement à ce que la personne prenne conscience d'un certain nombre de choses de sa situation professionnelle, et du coup revoie ses attentes irréalistes à la baisse et par vase communicant, agissent plus sur qu'est-ce que je peux changer dans la situation. Ce qui est un peu notre voie à tous. Enfin, en tout cas, je le
Et
souhaite.
oui, merci aussi Olivier pour toutes ces belles informations qui seront utiles aux auditeurs. Alors, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver tous les podcasts de Radio TerraZen, évidemment sur le site de Radio TerraZen. Et puis ceux qui nous concernent, vous les retrouvez sur mon site www.anne-catherine-sabas avec un seul b.com. Voilà la rubrique radio. Notre prochaine émission, donc
Le
le
3
mois
mai.
prochain, mardi 3 mai, faire la paix avec son passé. Hein? Comment assumons-nous notre histoire, nos échecs, nos réussites, nos erreurs, nos drames, nos traumatismes, nos parents? Tout ça, c'est notre passé. Comment faire la paix avec notre passé pour pouvoir nous regarder dans la glace joyeusement en étant content d'être ce que nous sommes?
C'est ce que je nous souhaite à tous. Et sur ces paroles bienfaitrices, je vous souhaite à tous une bien belle soirée. Anne-Catherine, merci de votre participation à votre
Merci.
propre émission.
Merci.
Et donc, rendez-vous à tous on a dit, le 3 mai, mardi 3 mai, 21h30, sur le thème de faire la paix avec son passé, où j'interrogerai à nouveau Anne-Catherine, voilà, qui nous livrera. Voilà. Plein d'autres
Et
merveilles.
en attendant, nous vous souhaitons de bien avancer sur ce chemin vers la paix. Avec vous-même, avec les autres et avec tous ceux avec quoi vous avez envie d'être heureux.
Et avec votre travail.
Et oui.
Voilà. Bonne soirée à vous et au mois prochain.